Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, bonjour à tous. On va profiter de la fraîcheur, de la parole de Dieu. Je vous propose deux très courtes lectures dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16. Alors, on va regarder ça ensemble. Et le verset 18. Donc, Matthieu, chapitre 16, verset 18, et j'ai ces mots de Jésus. S'adressant à Pierre, mais s'adressant à chacun d'entre nous, ça nous convient. Jésus dit ceci, « Et moi, je te le dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église. » Écoutez bien la suite, parce que c'est ça ce qui est intéressant. Alors, je bâtirai donc mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour des morts, les portes de l'enfer, les portes de la mort, les portes de l'ennemi, les portes de toute opposition au plan de Dieu ou au dessein de Dieu ne prévaudraient pas ou ne prévaudront point contre mon peuple, contre mon Église, contre chacun d'entre nous. Et cela à travers toute l'histoire, à travers tous les temps, les générations et les siècles. Retenez bien ceci. Deuxième lecture, le livre des Hébreux, où chapitre 1er, verset 13. On peut commencer à partir du verset 10. Mais le verset 13 nous intéresse. Alors, Hébreux, chapitre 1er, verset 10. Dieu dit au Fils, à Christ, « Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. » Verset très important. Et auquel des anges n'a-t-il pas dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Dieu dit à Christ « Assieds-toi à ma droite » et nous le savons depuis son ascension, assis à la droite de la majesté divine, « jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis eh bien, ton marchepied. » Alors, c'est sur ces paroles que nous allons développer notre réflexion ce matin. Elle aura un caractère, comme j'aime beaucoup, d'histoire. Mais on ne peut pas comprendre notre temps. Et on ne comprendra jamais le plan de Dieu. Et on ne pourra jamais saisir, finalement, notre destinée si nous y enlevons le côté historique. La Bible ? C'est avant tout un livre d'histoire. Il n'y a rien à faire. Que l'on prenne d'un côté ou d'un autre, c'est un livre de l'histoire de Dieu dans lequel il fait rentrer l'histoire des hommes. Alors ça va être peut-être un petit peu intéressant. Je pense que vous êtes tous des biblistes, que vous connaissez bien votre Bible, parce que nous allons faire des grands sauts dans la Bible. Alors n'ayez pas peur, il n'y a pas de vertige à avoir, mais nous allons passer dans cette étude eh bien, à travers des personnages, à travers des époques, à travers toutes sortes de choses. Mais je suis ma pensée. Donc, c'est une étude relative aux tentatives d'attentat. C'est ce que c'est, hein ? On en parle beaucoup. Tentatives d'attentat. Et je souligne le mot tentative parce que ça n'a jamais réussi. Ça n'a jamais réussi complètement. Ça a toujours été à deux doigts de la catastrophe, voire même du génocide. Mais Dieu veille. Et Dieu a permis que tous ces attentats échouent. J'ai appelé le message que nous allons partager ce matin « ligne de vie ». Ça aurait été le contraire, je l'aurais appelé ligne de mort. Mais la ligne de vie, invisible, qui traverse les temps, qui traverse les siècles, qui traverse les générations, qui traverse les familles, qui traverse toute l'histoire de Christ, qui traverse l'histoire du peuple d'Israël, c'est une ligne de vie, parce que Dieu est un Dieu de vie. Alors on va le découvrir. C'est intéressant. Figurez-vous que j'ai fait ce message pendant mes vacances. Alors envoyez-moi en vacances parce que vraiment, ça me convient. Donc, tentative d'attentat du mal, du malin, du diable, de l'ennemi, vous lui donnez le nom que vous voulez, mais c'est toujours le même, contre Dieu et son Christ en vue. De mettre en échec le plan rédempteur, le plan de salut. Tout a été tenté dans l'imagination perfide, diabolique, du malin pour casser. Oh, il a réussi à casser pas mal de choses. Mais ça, il ne l'a jamais cassé. C'est vraiment le fil de vie, c'est le fil rouge sur lequel les croyants de tous les temps, juifs pieux d'hier, d'autrefois, comme les chrétiens d'aujourd'hui, nous nous raccrochons. Parce que ce fil de vie, cette ligne de vie, elle tient bon. Et c'est vraiment notre espérance. Il n'y aurait pas ça, ben on serait désespérés. Mais nous ne le sommes pas. Nous sommes vainqueurs et nous triomphons. Parce que le plan de Dieu a été jusqu'au bout. Alors une guerre est engagée depuis les premiers jours de l'histoire de l'humanité. Un conflit qui n'a jamais eu de cesse au fil des siècles et de l'histoire de l'homme. Ça commençait dans un fameux jardin. Je ne vais pas trop raconter l'histoire parce que vous la connaissez, vous allez me suivre dans le commentaire. Cependant, la victoire, et je dirais que c'est plus qu'une victoire, c'est un triomphe. Est-ce qu'il y aura un mot supérieur ? Je ne sais pas si dans le langage humain nous pouvons dire. Plus qu'une victoire, plus qu'un triomphe. On avait déjà l'arc-en-ciel, mais Dieu nous manque un arc de triomphe pour célébrer, eh bien, sa victoire. Cette victoire de Dieu est déjà inscrite. C'est la deuxième lecture que nous avons faite tout à l'heure. Et cette parole vient du haut des cieux, s'adresse à Jésus, et par l'intermédiaire est offert à notre compréhension et à notre foi, viens siéger, viens t'asseoir, dit Dieu à Christ, à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis, que je les ai placés sous tes pieds, et que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Vous savez ce que c'est pas un marchepied? C'est un petit escabeau sur lequel nous montons pour aller plus haut. Voilà, mais sous les pieds de Jésus, ses ennemis vont servir d'escabeau. C'est-à-dire qu'il les écrase, il les anéantit, il les neutralise. Et ce matin, c'est un message de triomphe. Je dis bien, plus que de victoire, c'est un message de triomphe. Ainsi, par étapes successives, nous allons considérer ce que je vais nommer maintenant le harcèlement diabolique, les forces d'oppression, de destruction au travers les récits de l'Ancien Testament. Je n'ai pas eu 2 semaines de vacances supplémentaires pour vous parler du Nouveau Testament. Mais ça viendra. Je me suis contenté de compulser la Bible à travers toutes ses pages. Bon, il y en a quelques-unes dans l'Ancien Testament. Hein. Mais toujours est-il que on va s'arrêter au Nouveau Testament. Et on va voir que ce dont nous disposons aujourd'hui, mais quelle guerre, quel conflit, des hommes ont eu à subir des choses terribles, mais ils ont compris la pensée de Dieu et ils ont tenu la ligne de vie pour qu'elle nous parvienne à nous. Formidable. Alors, je peux vous dire et vous affirmer que tout sera mis en œuvre afin d'éliminer, d'une manière ou d'une autre, dans le temps ou à contre-temps, la venue du Messie d'Israël, d'abord pour Israël, et ensuite de mettre en échec ce plan universel pour la venue du Sauveur, pour que le monde entier soit sauvé. Pas seulement les Juifs, mais le monde entier. Et vous allez être étonnés, ben vous connaissez l'histoire, mais de la manière dont les choses se déroulent, c'est quand même assez étonnant. Vu sous cet angle, cet acharnement et cette, nous pourrions dire ce harcèlement. De la chute en Éden jusqu'à la naissance de Jésus à Bethléem, il s'en est passé des siècles. Il s'en est passé des temps. Et il y en a eu des choses, ce qui fait l'histoire biblique. Ce qui fait l'histoire biblique, eh bien, conservée dans l'Ancien Testament. En d'autres termes, un terme que nous avons appris il y a quelques années, la traçabilité. Alors on l'a approprié à des problèmes sanitaires, mais la traçabilité, c'est un mot qui convient, je crois, du plan divin à travers l'histoire, soit un défi permanent, mais à chaque fois, et vous allez le remarquer, et à chaque fois vous allez bien remarquer en lisant la Bible, à chaque fois, quand tout semble perdu, eh bien tout recommence. Et quand tout semble compromis, tout continue. C'est la ligne de vie. Et dans notre existence nous-mêmes, je voudrais vous encourager, c'est que quelque part nous sommes à deux doigts de désespérer. Dans certains cas. Nous sommes à deux doigts de dire, mais Dieu m'abandonne, Dieu ne fait rien, Dieu est absent, Dieu n'existe pas. Et à deux doigts, c'est alors qu'à ce moment-là, le Seigneur nous dit, je suis là, je suis près de toi, et tout recommence. Et quand bien même il y aurait l'histoire de la petite fille de Jaïrus qui mourait, il y a encore une résurrection possible de la part de Dieu. C'est le témoignage que nous avons d'Israël persécuté à travers tous les siècles, comme les restes d'Israël en 1945, où on disait c'est un peuple perdu, c'est un peuple fini, et là voilà, une nation qui renaît. Et c'est vrai pour nous, hein, dans nos problèmes et dans nos difficultés, ne cessez jamais de, ne renoncez jamais à croire dans le Seigneur et à mettre votre foi, même quand vous comprenez plus rien et qu'il n'y a plus rien. Parce que le Seigneur nous réserve des surprises et des triomphes et des victoires. Vous savez, Jésus a fait une belle promesse à ses disciples. Quand il dit ceci, « Nul ne vous ravira de ma main. » Elle est forte, la main du Seigneur. Ou encore dans le livre des Hébreux, « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Pourquoi pleurons-nous? Pourquoi sommes-nous effrayés? Sommes-nous quelquefois terrorisés par une maladie qui nous frappe ou peut-être par un chômage ou autre chose? Mais Jésus nous a dit, « Je ne t'abandonnerai pas. » Ma main est forte, je te tiens au creux de ma main. Et vous savez que le livre du prophète Ésaïe nous dit que dans les creux de la main de Dieu, de Jésus, il y a son sang. Alors on va prendre la première phase, si vous voulez, il y en a 9. Hein. Je ne sais pas si je vais pouvoir tout dire aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave, on se reverra normalement. Première phase, c'est la promesse initiale où l'homme, eh bien, trompé dans son innocence, bien que prévenu par Dieu, tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre, voilà. Bien que prévenu, eh bien là, l'attaque est fulgurante. Un ennemi inconnu, un ennemi que l'on ne pouvait pas soupçonner, on ne sait pas d'où il vient. Mais à partir du moment où Dieu a parlé, que l'homme a entendu, il arrive pour tout casser. Et cette attaque ressemble à une morsure de serpent. On n'aime pas trop ça, hein, c'est effrayant. C'est bien un serpent qui est présenté dans la Bible comme emblème du mal, quelque chose qui est dissimulé. Et à partir de ce moment-là, le venin de la mort est inoculé et pénètre dans l'être entier, non seulement dans l'être entier, mais dans le monde entier, la contamination va se faire. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Ce sont des citations libres que je fais. Mais néanmoins, eh bien, c'est la réalité. Le venin est là. Et la morsure est mortelle. Physiquement, moralement, spirituellement. Mais Dieu n'attend pas un seul instant. Il réplique aussitôt d'une manière appropriée. Il va créer l'antipoison. Il va créer l'antidote. Et l'antidote, vous le connaissez, c'est tout simplement cette parole, parce qu'elle est importante, et je le rappelle ce matin, c'est dans Genèse chapitre 3, quand il est dit ceci, parce que je pense que si vous voulez suivre, il faut quand même donner quelques citations, et il est dit ceci, Dieu parle au diable, au serpent, et il dit ceci, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, et tu blesseras le talon. C'est sur cette base-là que le triomphe de Dieu sur le mal est établi. La femme donnera naissance à Christ, qui lui sera blessé à travers toutes les injures, les ignominies, les crachats, les soufflets, la croix, les clous, etc., etc. Mais il nous est dit que le triomphe de Dieu se manifestera parce que le diable, parce que le démon, parce que l'ennemi, le serpent, sera écrasé par la tête sous les pieds de Jésus. Ça commence comme ça. Et à ce premier verset de salut, annonçant le salut de Dieu à l'humanité, correspond un autre salut au début de l'évangile, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Reliez ces deux versets et vous avez le fil, la ligne de vie. Où il y a quelque chose de formidable au milieu, c'est l'amour de Dieu, alors que nous méritions le châtiment. C'est l'amour de Dieu. Et c'est la foi qui est présentée, c'est pas la loi. Parce que l'homme se récupère toujours dans la loi en disant « j'y arriverai toujours ». Seigneur, regarde mes mérites. Dieu dit « tes mérites, tu les gardes pour toi, ça ne sert à rien. Toute l'humanité est perdue, il n'y a qu'une seule solution, c'est Jean 3,16. L'amour de Dieu, la foi de l'homme, afin qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le premier échec de l'adversaire qui augure tous les autres. C'est déjà perdu pour lui. Mais pendant des siècles et des siècles, jusqu'à nous, il fait croire qu'il est vainqueur. Premier échec, ça augure tous les suivants. C'est pour ça que nous avons lu « Les portes de l'enfer ne prévaudraient pas contre mon peuple, Israël ou l'Église ». Donc la ruse du diable est dévoilée dès le départ. Mais il a plus d'un tour dans son sac, hein, vous allez le voir. La deuxième phase, c'est l'apparition du premier meurtrier sur la terre. Il s'appelle Caïn. Et ce frère verse le sang de ce frère qui s'appelle Abel, qui est même qualifié Abel le juste. Tout simplement. Le juste est tué par l'injuste. C'est le produit de la malignité de celui qui a quand même contaminé et jeté le venin, hein, naturellement. Alors, à ce moment-là, le monde s'effondre dans la guerre, dans le sang, dans la mort, mais Dieu relève à nouveau le défi. Et le défi, nous l'avons dans le livre de la Genèse, écoutez bien, parce que si l'on suit les choses, vous allez voir que c'est très très intéressant. Enfin, moi, en tous les cas, je me suis particulièrement intéressé. Et dans ce livre de chapitre 4, versets 25 à 26, il est dit cette parole que je... Voilà, 25... Adam connut encore sa femme, après naturellement l'assassinat d'Abel. Il enfanta un fils et il l'appela du nom de Seth. Seth, ça veut dire tout simplement celui qui est désigné. Donc c'est pas lui qui s'est mis en avant, c'est Dieu qui l'a mis en avant, désigné. Et ça dérive d'un mot qui signifie placer, mettre, ou mettre à la place de Seth va remplacer Abel qui a été assassiné. Il l'appela du nom de Seth, car dit-il, Dieu m'a donné un autre fils, enfin c'est naturellement Adam qui parle, il m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth aussi eut un fils, il l'appela du nom d'Enoch, c'est alors que l'on commença à prier, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel sur la terre. Ah, voilà quelque chose qui peut être rassurant. La ligne de vie est encore là, la ligne de vie horizontale, celle qui va de l'homme à Dieu et de Dieu à l'homme, ligne de vie. La lignée de Seth prie Dieu. Auparavant, c'était la haine jusqu'à tuer Abel. Maintenant, on le prie Dieu et de là naîtra ou de là apparaîtra les premières semences du Messie. Je dis bien, il apparaîtra beaucoup, 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 beaucoup plus tard, mais c'est déjà les prémices du Messie qui passera par la famille d'Enoch, qui lui-même arrivera à Noé, qui sera sauvé du déluge, tandis que tout le reste de l'humanité d'alors périra dans les eaux. Il y a les sauvés et il y a les perdus. Ainsi la promesse se perpétue et elle continue. Et l'image du salut au travers du déluge sera symbolisée par un arc-en-ciel qui est beaucoup plus haut que notre arc de triomphe, hein, vous l'avez remarqué. Parce que les portes de l'enfer ne préviendront pas contre mon Église et mon peuple. Voilà. Histoire de salut. Troisième épisode de victoire. Cet épisode nous amène du déluge, où un tout petit reste de l'humanité subsiste pour refaire la terre, repeupler la terre, et il va du déluge jusqu'à Jacob. J'ai passé beaucoup de choses, hein, vous avez remarqué. Parce qu'autrement, je vous donne rendez-vous jusqu'à la fin septembre. Donc, déluge à Jacob. La promesse d'un sauveur messie est faite à un homme qui apparaît à ce moment-là, suscité par Dieu. Un homme dont le cœur est à la capacité de croire Dieu, un Dieu qu'il ne voit pas. Et il s'appelle Abraham. Et Abraham a une femme, elle s'appelle Sarah. Et il y a des promesses qui sont faites à Abraham parce que c'est un homme d'obéissance. Mais il y a deux obstacles qui vont s'élever devant Abraham et Sarah. C'est que ils sont vieux tous les deux, et puis, compte tenu de son âge, elle est stérile, ce qui n'est rien d'étonnant. Et là, pendant 25 ans, Abraham va espérer, parce que Dieu lui a dit, tu auras un fils, il sera le fils de la promesse, c'est lui qui tiendra le fil de vie, c'est lui qui conduira. Comme ton père qui est appelé le père des croyants. Faut que ça continue tout ça, mais c'est pas possible. C'est la stérilité, c'est l'infécondité, c'est la désespérance. Dieu, tu parles, tu me dis, et ça ne se passe pas, ça ne se réalise pas. Alors, c'est terrible tout cela. Et puis pourtant, miraculeusement, il y a un petit garçon qui arrive, il s'appelle Isaac. Il naît à la vie, et il était appelé le fils de la promesse. C'est lui qui véritablement tient le fil, c'est lui qui tient la ligne de vie, c'est lui qui tient le cordon rouge, parce que s'il n'était pas là, eh bien, tout serait arrêté, et le diable a dit, j'ai gagné. Le diable a cru gagner, et il croira gagner jusqu'au bout, mais rien ne se fera. Alors, Isaac arrive, et nous voyons que tout de suite, quelques années après, alors qu'Isaac est un adolescent, Dieu parle à Abraham et lui dit, maintenant ton fils, tu sais, ton unique, celui que tu aimes, t'as pas trompé, il s'appelle Isaac, naturellement. Là, ça le faisait pas rire, hein. Imagine-toi, parce qu'Isaac, ça veut dire rire. Eh bien, moi, tu sais ce que je voudrais te demander? C'est que tu vas monter sur le mont Morija, tu vas prendre un couteau, tu vas faire un autel, tu vas mettre du feu et tu lui coupes la gorge à ton fils. Terrible! Immole-moi ton fils en sacrifice. Et là, c'est terrible. Et pourtant, Abraham, qui est un homme de foi, qui ne voit pas Dieu, mais qui croit en Dieu, eh bien, il va le faire quand même. Pouh, affreux. Et ce sacrifice sur le mont Morija va se produire jusqu'au dernier moment. Ultimement, arrête Abraham. Arrête. C'est pas ce que je veux. Anticipation d'un autre événement qui viendra des années et des années, des siècles plus tard, où là, la main de Dieu sera pas arrêtée, ça sera sur le mont de Golgotha. Mais pour une autre raison. Alors, que va devenir la divine promesse si Isaac est égorgé par son père? Vous savez, il y a une référence que je voudrais citer parce qu'elle est importante, elle rentre bien dans le contexte de notre méditation, de notre étude ce matin. Un jour, Jésus dira aux Juifs dans l'évangile de Jean, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » C'est ça? Ouais, l'ange de l'Éternel. Voilà, une christophanie, l'appelle-t-on en théologie, christophanie, qui apparaît. Alors, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » C'est dans le chapitre 8 de l'Évangile de Jean, vous retrouverez ça. « La ligne de vie fragile se poursuit en passant par Isaac » et Rebecca, ensuite, ça continue. Mais malheureusement, elle est aussi stérile. ce n'est que des espérances, ce n'est que des à-coups, nous pourrions dire que ce n'est que des douches écossaises. Dès qu'il y a quelque chose qui marche, bien tout de suite après, ça se casse. Il est dans l'ombre. Vous savez l'ennemi qui vient de nuit, le semeur d'ivraie. Il est toujours là, on ne le voit pas, il n'apparaît pas, les hommes s'en aperçoivent pas. Mais il est là. Alors, cette ligne de vie fragile se poursuit donc en passant par tout simplement Isaac et Rebecca, mais Dieu assure la naissance d'un Jacob, en contradiction avec son frère jumeau, Ésaü. Lequel des deux? Il y en a un qui est l'aîné selon la règle des hommes, droit d'aînesse, c'est lui qui devrait, eh bien, avoir la ligne de vie, Mais Dieu a décrété que ça serait le plus jeune. Parce que l'un est profane et l'autre a le sens du sacré. Et pourtant, je pourrais dire sacré Jacob. Je peux vous dire que pour la morale, pour la vérité et pour la justice, il ne voyait pas grand. Hein. Parce que les mauvais coups, les turpitudes et les intrigues de Jacob, nous on aurait été des hommes, on n'aurait pas choisi lui. Hein. Et pourtant, la ligne de vie va passer par lui. C'est pour vous dire que Dieu vient sauver des pécheurs encore aujourd'hui et hier. Hein. Jacob trompe son père, je vous l'ai dit. Il trompe son frère d'une manière tellement éhontée avec des histoires mais abracadabrantes qui font sourire. C'est terrible. Hein. Alors à ce moment-là, Ésaü, eh bien, veut le tuer. Il veut le tuer. Jacob va fuir la vengeance et 21 ans après, Ésaü l'épargne au dernier moment. Heureusement. Au dernier moment, parce qu'il va y avoir une expérience pour Jacob. C'est lui qui va introniser ce que c'est qu'une véritable conversion d'un homme et qui se donne à Dieu, au torrent de Jacboc. Et là, son frère, eh bien, va lui dire, je te fais grâce. Et une fois encore, la ligne de vie tient bon. Et c'est Jacob qui va passer le relais. Encore, l'ennemi est derrière. Il cherche qui il dévorera. Au départ, c'était un serpent. Maintenant, il est devenu un lion. Viendra ensuite l'épouvantable séjour des Hébreux en Égypte. Alors là, c'est pas une personne. C'est un peuple. Prémisse de ce qui a été appelé en 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, un génocide. C'est-à-dire l'extermination d'un peuple, d'une nation, complètement. Alors les Hébreux en Égypte, à la limite de l'extermination, hein. Juste. Ah, 430 ans de douleur et de souffrance inarrables. Il y a là, à ce moment-là, à cette époque-là, un pharaon qui est un tyran, qui est un despote. Et il décrète alors la mise à mort de tous les enfants mâles hébreux, sauf un qui échappe et qui s'appelle Moïse. Petit Moïse, naviguant sur les eaux du Nil, dans un panier enduit de poids. La ligne de vie est très, très légère, hein. On se dit, mais un enfant qui est ballotté là sur un fleuve tellement immense, comment la vie pourrait-elle subsister? Cet enfant va se faire manger par les crocodiles, il va couler. Mais Dieu prend des risques, comme il prendra plus tard des risques avec un Job et avec bien d'autres. Vous croyez que le Seigneur n'a pas pris des risques avec nous? Eh oui. Alors, il nous fait confiance. Alors, faut lui faire confiance, hein, parce que, Seigneur, comment tu fais, hein? Mais bon, c'est pas nous de nous poser la question, lui, il sait ce qu'il fait. Alors, c'est le principal. Et nous voyons qu'à ce moment-là, Moïse va apparaître. Et c'est ce Moïse-là qui va aller pendant des années, 40 ans, dans les palais du roi d'Égypte, et qui va devenir un prince d'Égypte. Et c'est cet homme-là que Dieu va choisir. C'est curieux que les choses se passent ainsi. Et puis nous voyons qu'après, il y a la libération d'Égypte. Et vous comprenez une chose, c'est que le peuple de Dieu est formé à ce moment-là. Il va recevoir les oracles de Dieu sur le mont Sinaï, les 10 commandements et tout le reste. Et au moment où Moïse est sur le mont Sinaï pour recevoir les commandements de Dieu, eh bien les Hébreux, échappés, rescapés, c'est le mot Pâques, hein, qui ont passé outre à travers ce souffle d'extermination, eh bien nous voyons que une fois qu'ils sont libérés, ils se retrouvent dans le désert, ils sont libérés et ils sont séduits, non pas par des hommes, mais par un esprit de séduction et un esprit d'idolâtrie, et c'est à ce moment-là qu'ils vont faire le veau d'or. Dieu a sauvé un peuple qui soit à lui, et il s'aperçoit que finalement, ce sont des brigands. Ce sont des gens, pourtant il aime ce peuple, ce sont des gens qui sont indociles aux courroies. Dieu pouvait dire, mais qu'est-ce que j'ai été faire de sauver un peuple comme ça? Le premier pas dans la liberté, il commence à faire le contraire de ce que j'aurais demandé. Ils vont à le contraire de leur bonheur. Ils font le veau d'or. Alors le jugement de Dieu menace. Et il faut qu'il y ait Moïse qui se lève à ce moment-là. Moïse qui va sauver la ligne, qui va sauver la ligne de vie. Moïse qui va sauver le plan de salut et qui va implorer Dieu, qui va se mettre à genoux, qui va pleurer. Et il va réclamer la grâce. Et ça va faire prévaloir finalement la promesse qui va se maintenir. Et Dieu va écouter Moïse. Et il va sauver le peuple encore une fois. Ligne de vie, ça continue. Et Moïse va être certainement le premier personnage, le grand personnage, qui plaide. Et il y a dans l'inspiration de Moïse, et il y a dans la prière de Moïse, un grand signe, ou le signe du grand médiateur à venir, c'est-à-dire Christ. C'est ce qu'on appelle la typologie. Joseph, Abraham, Joseph, Moïse, David, etc., etc. La ligne de vie passe par là. Ça sera la voie de l'expiation qui touchera son comble et sa victoire complète et totale, son triomphe à Golgotha par la croix expiatoire. Le diable à nouveau recule. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre mon église, contre mon peuple. Et l'histoire continue parce que la ligne de vie tient bon, elle est solide. C'est certainement la corde à trois fils, vous savez. Une autre étape. Une nouvelle étape apparaît. Elle est poétique, elle est pathétique. Elle touche l'âme des hommes, vous allez voir. Un roi d'Israël, oint par Dieu, il est un jeune homme à l'époque, qui va fonder une dynastie et dont Dieu va mettre le sceau d'une promesse éternelle sur sa postérité. Pour un avenir divin et un avenir spirituel, cet homme, il s'appelle David. Notre David que nous aimons bien. Le David, l'homme de foi, l'ami de Dieu, David, lui va aussi rentrer dans cette ligne de vie. Alors, comme c'est un homme de Dieu, comme c'est un homme qui aime Dieu, naturellement on veut le tuer. C'est quand même curieux ces histoires. À chaque fois qu'il y a un Abel, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui... voilà, on veut le supprimer. C'est la race des Caïn qui font ça. Faut pas se faire d'illusions, hein. Ce sont ces Caïn, parce que Caïn, ils sont instrumentalisés sans le savoir par la magie, par l'occultisme, et en arrière-plan, dans l'invisible, il y a le malin et le diable. Ils le savent pas, ils pensent faire bien, parce que tuer, c'est normal. Ouais, parce qu'on aime un monde. Leur monde à eux, c'est le monde de l'injustice, c'est le monde du sang, c'est le monde de la guerre, c'est le monde des forts, c'est le monde de ceux qui envahissent et qui écrasent tout pour eux, uniquement pour eux. Mais heureusement, Dieu, à travers les époques et les temps, il a donné des Abel, voilà, qui se suivent les uns derrière les autres. Alors à ce moment-là, eh bien, on veut tuer David. Et il y a cette fameuse lance de roi Saül qui veut le piquer, qui veut l'accrocher à la paroi du palais. Vous connaissez l'histoire. Mais Saül, il est inspiré aussi comme Caïn. Hein, il nous est dit qu'il était animé d'un esprit mauvais et méchant, un esprit diabolique. Et il dit, toi, mon gars, je vais te tuer. Comme ça, tu vas te débarrasser. C'était son genre quand même, hein. Vous voyez, comme il peut y avoir de l'amour dans les familles. Mais toujours est-il que, voilà, c'est pour vous dire, naturellement. Et David, à un moment donné, par une main invisible, hop, il se déplace, et la lance, elle tape dans le mur, et David est sauve, encore une fois de plus. Je voudrais vous dire que tant que vous resterez fidèles au Seigneur, pas un seul des cheveux de votre tête ne tombera sans la volonté de votre Père. D'accord? Alors, pourquoi vous inquiétez? Enfin, je dis ça comme ça, hein, parce que c'est facile à dire, c'est peut-être plus difficile à vivre. Voilà. Et le dragon, si vous permettez, le diable, il échoue une nouvelle fois, parce que Dieu veille à la protection et à l'accomplissement de sa parole et de ceux qui sont les détenteurs de sa parole pour qu'ils la gardent comme un trésor au fond de leur cœur et qu'elle soit passée à d'autres. Dieu veille. Alors la lignée que l'on a appelée la lignée davidique, la lignée, la descendance, la postérité de David, court les temps, il va y avoir de nombreux rois. Il va y en avoir des dizaines et des dizaines avec différentes fortunes. Et à un moment donné de l'histoire, à un moment critique de l'histoire, il y a une reine. Une reine qui est une matinée, vous comprenez, un mélange entre le paganisme et le judaïsme. Elle s'appelle Athalie. On est peut-être passé dessus sans tellement s'en apercevoir, Athalie. Mais Athalie, c'est une reine, une fille perverse, de parents pervers. Son père s'appelle Achab, Il est le roi d'Israël, le roi de Juda, et sa mère s'appelle Jézabel. Ça vous dit quelque chose? Et ils ont une fille, gentille, quand elle était toute petite, mignonne, elle était formidable. Mais quand elle est devenue au pouvoir, je peux vous dire que ça a été terrifiant. Mais terrifiant, hein? Et je vais vous dire pourquoi c'était terrifiant. Parce que elle tente de faire mourir, de faire périr tous les descendants de David, dont elle était, finalement, dans la lignée. C'est curieux, hein? Tuer son propre sang. Mais elle était quand même cananéenne, elle, c'était parce qu'elle s'était mariée avec Akab. Et elle s'est dit, puisque mon dernier fils est mort, eh bien moi je vais faire tuer toute la dynastie. Et à ce moment-là, Israël ne sera plus Israël, Israël redeviendra païen. Redeviendra tout simplement parce que je crois qu'elle était, la Phénicie ou un truc comme ça, enfin, Tyre et Sidon, qu'Israël sera complètement rayé de la carte. Le texte nous le dit, quand elle a vu que tous ses fils étaient morts, son dernier fils, je crois qu'il s'appelait particulier, elle a dit maintenant il ne restera plus rien, et Juda sera complètement éliminé, et on n'en parlera plus d'Israël. Ce sont des promesses terribles. Hein. Alors à ce moment-là, au dernier moment, alors qu'on pense que tout est fini, un homme providentiel apparaît. Devinez. Je vais vous aider, hein, parce que là, il faut le trouver. Il s'appelle Jéhodaja. Ça vous dit quelque chose? C'est un prêtre, un sacrificateur. On se dit, qu'est-ce qu'il vient faire là? Et il va protéger un petit garçon qui s'appelle Joas, le seul rescapé de la famille qui a été caché dans le temple. Il est resté pendant des années, et quand il est devenu en possibilité finalement de pouvoir régner, alors que je pense qu'Athalie l'a cherché partout, celui-là, hein, mais elle l'a jamais trouvé. Et Jéhodaja l'a pris sous sa coupe et il lui a donné un enseignement qui puisse finalement l'amener à avoir de bons sentiments lorsqu'il deviendra roi. Donc un seul des fils du roi échappe au massacre, Joas. Ainsi la promesse est sauve et la providence divine est merveilleuse. Au moment où tout était perdu, voilà, les choses se font. Une fois encore, les portes de l'enfer ne préviendraient pas contre mon église. Ça va? Oui? C'est pas trop compliqué dans l'explication, parce que c'est vrai qu'on est en train de... Là, on est dans la haute stratosphère, hein. On est très haut, hein. Enfin, voilà. Au cœur de l'histoire d'Israël, des dizaines de fois, les nations alentour, les Cananéens, les Phérésiens, et puis tous ces peuples, les Syriens, et tout ce que vous voulez, les Philistins, les nations alentour vont jamais cesser de faire la guerre aux Juifs, et ils veulent liquider le peuple de Dieu. Alors, je vais vous donner un trait d'histoire que est assez méconnu. C'est qu'il y a après la déportation à Babylone. On connaît l'histoire par le livre de Daniel. Et puis Ézéchiel également. Et les nations dominantes dont je vais parler maintenant, qui veulent détruire Israël, ne laissons pas vivre Israël. Détruisons son nom et son pays devant, à la face des hommes de la terre. Alors au retour de l'exil, depuis Néhémie, il y a eu ensuite sur Israël la domination des Perses qui a duré 200 ans. Ensuite, les Perses ont été battus par Alexandre le Grand, qui a donné l'empire gréco-égyptien, parce que la ville d'Alexandrie, ça vient du nom Alexandre le Grand. Donc, les Grecs ont été jusqu'en Égypte et ils avaient mis la main sur l'Égypte. Mais l'Égypte avait échu dans le protectorat. C'est un petit peu cette mainmise sur Israël. Et ça a duré pendant 125 ans. Ensuite, c'est la Syrie avec les Antiochus Épiphane, c'est une histoire. Ça a duré pendant 60 ans. Et ensuite, tout a été réglé par l'Empire romain quand il a envahi la Palestine, jusqu'à la venue de Jésus. Donc on s'aperçoit que ça a toujours été la destruction d'Israël. Et même à travers les moments les plus critiques, ça a duré 400 ans, hein, ce que je suis en train de vous dire. Mais pendant, alors qu'il n'y avait plus de prophétie, il n'y avait plus rien du tout, mais le culte était resté dans le cœur des Juifs. Et à travers tout cela, Dieu a sauvé son peuple. La ligne de vie a tenu. Et à chaque fois, la situation est de plus en plus critique en raison des ennemis, et à chaque fois, la miséricorde de Dieu, la foi des croyants, eh bien, fait la différence. Israël a été sauvé de la destruction in extremis. Ça tient bon. Il t'écrasera la tête. Le diable est toujours là, il rôde, mais il ne peut rien faire. Et puis nous arrivons au meilleur parce que ça va être la fin. Mais c'est quelque chose d'intéressant à souligner à travers fait un survol sur l'histoire de la Bible. Comme la promesse ne peut pas être anéantie, et elle est soutenue par ces mots de Dieu qui viennent à l'exécution de ce que nous dit le prophète Ésaïe dans deux courts passages, et dans Ésaïe au chapitre 9 et au verset 5, ça a été l'espoir, ça a été quelque chose. Au verset 7, au verset 9 et verset 5, il est dit cette parole. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Voilà. Voilà celui qui est en préparation, la semence, le Messie qui est en train de préparer. Et au cœur même de l'histoire d'Israël, par le prophète Ésaïe, Dieu inspire ce prophète en disant, mais relevez la tête. Relevez la tête. Parce que voilà les qualificatifs, du Rédempteur qu'on va leur donner. Voilà, un enfant vous est né. Et puis ce témoignage tout à fait aussi convaincant dans Ésaïe chapitre 7 et au verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et vous lui donnerez le nom d'Emmanuel. Et c'est ce nom-là que sur lequel je voudrais terminer. Le nom d'Emmanuel. Emmanuel, par Emmanuel, la volonté de Dieu, le plan de salut s'accomplira. Emmanuel, Dieu avec nous. Pas Dieu contre nous, mais Dieu avec nous. Et il naîtra de la famille de David. Vous vous souvenez tout à l'heure que je vous ai dit qu'Athalie voulait rayer tout le monde? Eh ben oui, mais le diable sait pas ce que Dieu sait. Et heureusement. Il sait peut-être beaucoup de choses. Mais il n'est pas omniscient. Il n'est pas omniprésent. Il n'est pas omniconscient. Il est limité. Alors, de lui naîtra finalement Emmanuel. Un nouveau drame va se profiler à l'horizon. Un nouveau drame est en préparation. Il y a dans l'histoire d'Israël un empereur qui s'appelle Assuérus. Il règne sur l'empire perse, je ne dis pas le royaume, l'empire. Toute la domination du monde connu d'alors. Et il a à ses côtés un premier ministre qui s'appelle Aman. Connaissez l'histoire? De l'arroseur arrosé? Ah, c'est ça. Aman est un homme pervers, un homme qu'on pourrait dire diabolique et satanique. Il a une haine des Juifs. Les Juifs sont en déportation dans l'Empire. Et à ce moment-là, il conçoit cette idée perverse de faire décréter au roi Assuérus un édit stipulant que tous les Juifs doivent être mis à mort. Oh, c'est un ancêtre du nazisme et de l'hitlérisme. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Il ne faut plus qu'un Juif vive sur la terre des hommes. Voilà. Alors il va décréter. Et puis, ce qui va se passer, c'est que celui qui voulait tuer les Juifs, est tué lui-même. Par un concours de circonstances, vous pourrez le lire dans Esther, chapitre 3, etc. Le génocide tourne court au dernier moment, par une intervention divine. Et vous savez, ce n'est pas pour rien que, vous l'auriez peut-être pas pensé, hein, comment Dieu a-t-il permis qu'une jeune fille belle, extrêmement belle, pure, saine, enfin, voilà, puisse épouser un roi païen comme Assuérus, avec une sélection qui va au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Eh bien, cette jeune fille a été permis qu'elle soit l'épouse, l'impératrice, dans cet empire pour sauver son peuple. Alors, quelquefois, on se dit, mais Seigneur, on ne comprend pas. Tu vas donner une jeune fille de notre peuple à un homme qui était impossible? Eh bien oui, mais c'était dans un... Parce qu'on ne comprend pas toujours la finalité des choses et Dieu a des plans. Et là, quelquefois, quand on comprend pas, vaut mieux rien dire. Faut pas faire des remontrances au Seigneur en disant, mais dis donc, Seigneur, tu nous as donné une loi, tu nous as donné une morale, tu nous as donné ceci. Mais le Seigneur a fait rentrer dans la lignée, justement, dont nous parlons, il a fait rentrer une Rahab, il a fait rentrer une Ruth, des étrangères, et avec quelle vie, hein, surtout pour Ruth, pour Rahab. Seigneur, Alors le génocide tourne court. Il n'aura pas lieu. Les Juifs in extremis sont délivrés. Ils sont sauvés. Et le peuple est encore arraché des mains du destructeur. Plus tard, succédera la déportation à Babylone. Un petit reste reviendra de l'exil. Et une nouvelle page s'écrira dans un long soupir spirituel qui durera 400 ans. Tout simplement. Jusqu'à Malachie. Ou Malachi, si vous aimez mieux. Et l'Emmanuel dont nous avons parlé tout à l'heure, cet Emmanuel attendu fera son entrée dans le monde, et ce sera la conclusion. Voici le dernier acte de ce grand drame. Ce grand drame de l'histoire humaine, qui ouvre les portes du royaume de Dieu, justifiant la promesse invincible, les portes de l'enfer, ou du séjour des morts, ne prévaudront pas contre mon Église. La scène se passe à Bethléem. Un bébé est couché dans une crèche. Il est sur la paille. Satan n'a pas pu s'opposer à sa naissance, comme il n'a pas pu s'opposer à la naissance des fils des patriarches. Ah oui, même quand tout est en opposition, quand les femmes sont stériles, la Marie, elle est vierge, c'est encore autre chose. Et l'enfant arrivera divinement, non pas à la méthode des mythologies, mais parce qu'il sera enfanté, conçu par le Saint-Esprit de Dieu. À quoi renverser les esprits des hommes. Alors, il n'a pas pu s'imposer à sa naissance, mais il cherche à le faire périr, toujours la même chose, la même constance, le meurtre, la mort. Un passage révélateur nous dit ceci, et on peut faire une application peut-être avec ce que nous avons étudié dans le livre de l'Apocalypse il y a 2 ou 3 ans, quand il est dit ceci, « Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge de feu. » Ayant 7 têtes et 10 cornes, etc., sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait dans la terre. Et le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Si vous faites tous ces rapprochements, vous allez voir qu'il y a une constance dans tout ça. Oui, le diable est vaincu, mais il n'annule pas sa défaite. Et il continue à travailler. Et il continuera à travailler d'autant mieux dans un monde tel que le nôtre et peut-être avec la fragilité des chrétiens, si véritablement, nous ne restons pas fidèles au Seigneur. Ah oui, on lui laisse le passage, hein, naturellement. Alors, un odieux complot à ce moment-là, la naissance de Jésus se trame dans le palais d'Hérode, dont l'intention est de tuer Jésus. Et malheureusement, l'affaire se soldera par le massacre de tous les petits garçons de Bethléem. On appelle ça le massacre des innocents. Voilà, tout simplement. La naissance de Christ représente la victoire de Dieu sur Satan. Et une nouvelle page s'ouvre avec le Nouveau Testament, où sans cesse la puissance du malin tentera Jésus pour lui faire éviter d'accomplir la volonté de Dieu, lui faire éviter la croix sublime dans le plan de Dieu, l'amener à empêcher l'événement de la résurrection, anéantir son ascension, et surtout aujourd'hui, parce que ça nous concerne, surtout l'empêcher, peut-être par l'incrédulité des hommes, et surtout peut-être aussi par l'incrédulité de l'Église, de croire à son prochain retour, qui viendra juger les nations et délivrer ceux qui sont rachetés. Vous savez, s'il y a une chose que nous avons à cœur, croyez que Jésus revient bientôt. On appelle ça l'eschatologie, Jésus revient bientôt. Et tout a été essayé, dans toutes les manières, de toutes les façons, pour amener les hommes, et particulièrement peut-être aussi les croyants, à ne plus tenir la ligne de vie. Alors Jésus revient bientôt, naturellement. Pour juger le monde, enlever ses rachetés, où là, nous avons encore cette parole dans nos oreilles, « Assieds-toi à ma droite, afin que je fasse de ton ennemi et de tes ennemis ton marchepied. » Christ triomphe et nous sommes vainqueurs avec lui, parce que les portes de l'enfer ne triompheront pas contre mon Église. Nous sommes vainqueurs, et plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous bénisse. On va prier. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier, parce que nous croyons que ce survol, c'est vrai, rapide, eh bien, nous permet de voir que notre foi, elle est fondée sur du solide. Elle est fondée sur du roc. Elle est là, établie, Seigneur, sur ta parole. L'histoire, eh bien, d'hommes, de femmes qui n'ont jamais baissé les bras, qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal, qui n'ont jamais capitulé, Seigneur, devant le mal. Alors c'est vrai que nous restons vraiment et éminemment fragiles. Mais une chose qui est certaine, c'est que tu nous as promis que tu ne nous abandonnerais pas, que tu ne nous délaisserais pas, et que nul ne nous ravira de ta main. Même quand l'enfer gronde, même quand le monde marche sans dessus-dessous, même lorsque la maladie peut nous atteindre, et toutes sortes de choses qui, Seigneur, sont qualifiées de mauvaises, Seigneur, dans le nom de Jésus. Donne-nous d'avoir une vision beaucoup plus grande que celle peut-être qui est la nôtre aujourd'hui, et de voir, Seigneur, que nous sommes, eh bien, un petit maillon dans une chaîne infinie qui traverse l'histoire, et que là, Seigneur, eh bien, nous devons rester à notre place. Nous devons être ceux à quoi tu nous as appelés, remplir notre mission, et de croire que, eh bien, un moment ou un autre, même si le ciel s'obscurcit de plus en plus en raison, Seigneur, de l'effondrement de nos sociétés, eh bien, que le grand jour approche, le soleil brillant du matin, le soleil lumineux du matin va bientôt apparaître, parce que nous attendons Emmanuel, Dieu avec nous. Il revient bientôt. Il vient sauver, Seigneur, ceux qui espèrent en lui, et il revient mettre de l'ordre dans ce monde qui est véritablement, Seigneur, sous la botte, sous la main et au service de l'ennemi de la vérité, l'ennemi de la vie. Merci, Seigneur, parce que je peux dire encore que les portes de l'enfer ou les portes du séjour des morts ne prévaudrait pas contre Israël et contre ton Église. Merci en d'autres termes, tout confondu, ceux et celles qui croient en Jésus-Christ pour être sauvés et pour l'éternité. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.